Seigneur. Donne-moi la forme qui me convient. Oui, je suis venu m'approcher devant ta présence. Je suis venu à toi, Seigneur, qui fais toutes choses à ton temps. Tu fais quand tu veux. Tu fais comme tu veux, Seigneur, notre Dieu. Et aucun homme ne peut te donner des ordres. Merci, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, Seigneur, mon Dieu. Merci d'avoir fait de moi un parfum de bonne odeur au devant de ta présence, Seigneur notre Dieu. Donne-moi la forme qui me convient. Comme de l'argile, Seigneur, ce matin, je suis venu au devant de ta présence avec toi seul, Seigneur, que tu puisses me façonner, Seigneur. Que tu me donnes la forme qui me convient, notre Dieu. La forme, Seigneur, qui te conviendrait. Seigneur, tu me veux pour une utilité dans ta maison. Tu me veux, Seigneur mon Dieu, pour une utilité dans ta maison, Seigneur, et qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi je suis venu au devant de ta présence. Je suis venu me recueillir au devant de toi, Seigneur, afin que tu fasses de moi ce que tu voudras. C'est toi qui donnes la forme. Et quand tu donnes la forme, Seigneur mon Dieu, tout le monde se tait. Et quand toi, Seigneur mon Dieu, tu viens en secours d'un homme, tout le monde se tait. Béni sois-tu. Prends-nous en charge, Seigneur, ce matin. Tu as choisi d'utiliser un instrument faible. Tu as choisi, Seigneur, d'utiliser cette vaste terre inutile qui peut tomber et s'éclater, Seigneur. Tu as choisi, Seigneur, d'utiliser cette verte terre qui est sortie du soleil, Seigneur, mon Dieu, va s'effondrer, Seigneur, notre Dieu. Cependant, je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi en charge, dirige ce moment. Parle à un cœur ce matin. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité et pour tout ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Que le Seigneur soit sur chacun de nous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous tous qui nous suivez par les médias, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de parler devant son peuple aussi précieux que vous êtes. Et également dire merci à son serviteur, le pasteur Maurice, qui a pris ce risque ce matin de m'aligner dans ce grand programme. Que le Seigneur les bénisse. Et vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons partager une pensée. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. L'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 14. Nous lirons du 13e au 21e verset. Jean. Matthieu, pardon. 14, 13 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant si sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et ayant levé les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci Seigneur pour ces merveilleux moments que tu nous donnes. Parle à ton peuple maintenant, en nom de Jésus. Amen. Nous sommes dimanche 11 mai 2025, quitté à la borne Matadi. Les miracles de la multiplication. Est-ce que j'ai déjà donné les thèmes? Pas encore. La multiplication est encore possible. La multiplication est encore possible. Les miracles de la multiplication des pains que nous avons l'honneur de vous présenter ce matin est l'un des miracles les plus connus de tous. Car les quatre évangélistes en parlent. Et nous, depuis l'enfance, même tout petit, on savait que Jésus-Christ avait multiplié les pains. Et quand vous allez à l'Écodime, c'est encore pire. Tout enfant qui est à l'Écodime, qui passe par l'Écodime, il peut vous expliquer de A à Z qu'est-ce que Jésus a fait, comment les choses se sont passées. Et la question que je me suis posée, est-ce que ça vaut encore la peine que nous puissions en parler ici? Est-ce que ça vaut encore la peine qu'on puisse venir parler de ce sujet ici? Et peut-être, c'est la question que chacun de nous puisse se poser. Est-ce que cela vaut encore la peine qu'on en parle aujourd'hui? Nous nous disons oui, parce que ce n'est pas juste un simple miracle, non, mais une prédication, voire même un grand enseignement pour les disciples, pour les disciples en ce moment-là, mais aussi pour les chrétiens d'hier, les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens de demain. Nous comprenons que ce miracle s'est opéré dans une situation ou sinon dans un contexte très difficile. Pourquoi dans un contexte difficile? Parce que lorsque vous remontez dans les mêmes textes que nous avons lus ensemble avec vous, vous comprendrez qu'on venait d'annoncer une mauvaise nouvelle à Jésus-Christ. La mauvaise nouvelle, c'était quoi? On venait de l'annoncer la mort des gens. Or, nous savons tous que sur le plan biologique, Jean est cousin à Jésus-Christ. Mais aussi sur le plan spirituel, c'est son précurseur. Celui-là même qui lui a présenté au monde. Celui-là même qui lui a présenté au monde pouvant dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui-là qui l'a présenté. Bien-aimé, quand nous regardons cette situation de Jésus-Christ, lui qui était dans cette situation compliquée et difficile, il y a question, il y a lieu de dire que nous ne servirons pas toujours dans les meilleures conditions. Jamais nous ne servirons pas toujours dans les meilleures conditions. Il y a des moments où nous serons très faibles. Il y a des moments où nous serons vraiment comme si on est indisponible, comme si ça ne vaut pas la peine que vous puissiez servir. Pourtant, nous devons être là. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Timothée 4:2, là où il nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Donc, bien-aimés, nous comprenons que même quand nous nous sentons faibles, nous avons l'obligation d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Nous avons besoin de faire l'œuvre de notre Dieu. Peu importe les circonstances auxquelles on sert, peu importe la faiblesse auquel on peut se retrouver, nous avons besoin de servir ce Dieu. À cause de cette situation mauvaise, ou sinon de cette mauvaise nouvelle, Jésus-Christ, homme, avait choisi de se retirer, d'aller dans un lieu désert, dans un endroit où il sera calme, dans un endroit où il pouvait prier, dans un endroit où il pouvait communiquer, lui seul avec son Dieu, mais aussi avec ses disciples. Quand vous êtes dépassé par les problèmes, quand vous êtes dépassé par les difficultés, il nous arrive des fois de chercher à nous retirer un peu, pour très bien comprendre ce qui nous arrive. Il y a des moments où nous avons besoin d'aller encore un peu très loin pour demander face à face à Dieu, dire face à face à Dieu votre situation. Et cela était le cas pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme bien sûr. La Bible dit, Jésus-Christ partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, dans un lieu où il n'y a pas de gens, dans un lieu où il ne sera pas dérangé, dans un lieu où tout sera calme. Curieusement, nous apprenons que la foule, l'ayant si sorti des villes, le suivit à pied, bien-aimé, à pied. Lui était monté sur une barque, mais la foule qui devait le suivre était en train de le suivre à pied. Je me suis posé la question, c'est combien de kilomètres qu'il a traversé dans la barque pour qu'il arrive à ce lieu désert et pour que les gens qui le suivaient à pied arrivent. Et ils ont fait combien de temps? Quel sacrifice, mais aussi quel amour, quel dévouement. C'est donc une foule assoiffée d'écouter Jésus-Christ. C'est une foule qui avait le désir d'écouter. Une foule qui n'avait pas besoin d'une barque pour suivre Jésus-Christ. Ils sont partis à pied. Quand on a soif, bien-aimé, de rencontrer Jésus-Christ, quand on est dans les besoins, on s'en fout des moyens. On s'en fout des conditions. On peut dire, peu importe ce que cela va faire, même s'il fait nuit, vous verrez une personne en train de marcher la nuit, il n'a plus peur. Il va affronter même les clowns en cours de route, tout simplement parce qu'il a soif. Ce qui importait pour eux, c'est arriver dans la présence de Jésus-Christ. Cette foule avait en elle la notion de Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cette foule a même abandonné son confort dans la ville. Parce que s'ils étaient d'abord dans la ville avant de suivre Jésus-Christ, et là Jésus-Christ va se retirer dans un lieu désert. Peut-être dans une forêt ou je ne sais, dans une montagne. Il s'est retiré. Ils ont abandonné le confort. Ils ont abandonné leur travail. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient comme préoccupation juste pour aller chercher Jésus-Christ. Et ce matin, je sais qu'il y a un homme qui a abandonné sa maison, qui a abandonné ses préoccupations, qui a abandonné je ne sais quoi pour venir suivre Jésus-Christ. Et quand on le fait, quand on abandonne quelque chose pour suivre Jésus-Christ, Jésus-Christ nous récompense. Cette foule avait abandonné beaucoup de choses pour venir suivre Jésus-Christ. Et l'évangile de Marc, puisque j'ai dit que cette histoire se retrouve dans plusieurs évangiles, dans tous les quatre évangiles, et l'évangile de Marc, le chapitre 6, le verset 34, a comparé cette foule comme une foule qui n'a pas de berger. Et une foule qui n'a pas de berger, c'est une foule qui peut errer à gauche et à droite. Une foule qui n'est pas en sécurité. Qui n'est pas en sécurité. Ce matin, Jésus-Christ sait de quoi tu as exactement besoin. Cette foule pouvait dire, comme nous n'avons pas de berger, nous ferons de Jésus-Christ notre berger. Oh, je vais dire à toi qui n'as pas de berger, je vais te présenter un berger le meilleur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vous qui nous suivez par les médias, et vous qui êtes venus là ce matin, le berger par excellence veut vous prendre en charge. C'est donc un appel que nous lançons à la vie de chacun de nous qui a un berger disponible pour chacun de nous. Mais à la foule, vous avez fait les bons choix. Cette foule avait fait les bons choix. Vous n'avez pas eu de berger dans Jérusalem. Vous n'avez pas eu de berger dans la ville? Allez chercher un berger qui sera à votre disposition. Et nous tous, nous sommes là ce matin, comme je le disais, nous avons un berger qui est Jésus-Christ de Nazareth, prêt à subvenir à nos besoins. Cette foule savait que Jésus peut guérir leurs maladies, Jésus peut étancher leur soif, Jésus peut pourvoir à leurs besoins. Et comme nous tous qui sommes là ce matin, nous savons que Jésus peut étancher notre soif. Nous sommes là, nous savons que Jésus est capable de donner la solution à nos problèmes. Nous sommes là ce matin, nous savons que Jésus a le pouvoir, a la capacité de pourvoir à nos besoins. Peu importe l'immensité de ses besoins, peu importe la grandeur de ses besoins, Jésus a la capacité de pourvoir à ses besoins. Mais la question est celle de savoir, cette foule sera-t-elle la bienvenue auprès de Jésus-Christ? Parce qu'on nous a dit qu'il était faible, parce qu'on nous a dit qu'il a quitté la ville pour aller se retirer. Mais est-ce que cette foule sera la bienvenue auprès de Jésus-Christ? Nous avons énuméré deux points pour très bien expliquer cela. La foule devant Jésus-Christ, mais aussi l'intervention de Jésus. Notre premier point, nous l'avons intitulé « La foule devant Jésus-Christ ». Nous savons tous que Jésus-Christ était venu ici, c'est-à-dire dans cet endroit-là, dans cet endroit désert, pour se retirer. Il est venu pour se mettre à l'écart. Normalement, cet endroit n'était pas approprié pour lui pour recevoir des gens. Ce n'était pas un endroit approprié. Il pouvait dire que laissez-moi, je vous ai quitté dans la ville pour venir ici. Que faites-vous encore ici? Et si Jésus-Christ était l'un parmi nous, il pouvait dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes ici, je suis dans ma vie privée. Ici, je suis retiré ici, il y a mon intimité ici. Alors, si vous avez besoin de moi, allez m'attendre au temple. Pas ici. On pouvait le dire. Vous me suivez jusqu'ici, pourquoi? Je suis dans ma vie privée. Je suis dans mon intimité. Allez m'attendre à la cité. Mais le verset 14 nous dit que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle. Et non pas seulement être émis de compassion, et il guérit les malades. Jésus n'avait pas le temps à perdre, bien-aimés. Devant les besoins de son peuple, Jésus-Christ n'avait pas le temps à perdre. Au contraire, il était émis de compassion. Il était émis de compassion. Ceci veut dire que Jésus, étant celui qui sonde le cœur et les reins, pouvait voir les problèmes dans le cœur de ces hommes, pouvait voir les difficultés, pouvait voir tout ce qui avait comme problème, cette soif qui rongeait leur cœur. Il pouvait déjà voir. Alors, il a eu le sentiment de partager ensemble avec eux le mot, la souffrance, les peines qu'ils avaient. Jésus-Christ a eu ce sentiment de les partager ensemble avec eux. Parce qu'en fait, c'est ça la compassion. Ce matin, Jésus sait de quoi tu as exactement besoin. Il sait voir ton cœur. Tu ne peux pas nous le dire maintenant. Tu ne peux pas nous ouvrir ton cœur. Tu ne peux pas raconter par où tu passes. Mais Jésus-Christ sait de quoi tu as besoin. Jésus-Christ sait avec exactitude qu'est-ce qu'il te faut. Il le sait. Et il a choisi de compatir. Jésus-Christ a choisi de compatir dans ta situation compliquée. Nous savons, bien-aimés, que dans la compassion, il y a la pitié, mais aussi il y a ce qu'on appelle les actes posés. Il y a la compassion, dans la compassion, il y a la pitié et les actes posés. Lorsqu'on s'arrête seulement dans la pitié, on ne fait rien. Et le plus souvent, nous les hommes, c'est ce que nous faisons. Quand vous regardez une personne dans des situations compliquées, tu as juste pitié. Ah, ma wamoko na yo keli moi na moi soana.
vraiment, ça m'a, j'ai vraiment eu pitié de lui. Quand je l'ai regardé, non. Non, tu ne peux pas le regarder. Des fois, et on s'arrête là. Mais Jésus-Christ, lui, va jusqu'à la racine des problèmes. Il va jusqu'à la racine des problèmes, chercher comment résoudre ces problèmes. Il va poser des actions. Il va poser des actes. Et ce matin, Jésus-Christ posera des actes. Jésus-Christ a choisi de compatir, d'avoir pitié, mais aussi poser des actes. Parce qu'ici, quand on se met à la place d'une personne, on sait qu'on peut, on peut donner des solutions pour son problème. Qu'est-ce que cette foule peut-elle recevoir en choisissant de quitter la ville, les maisons, le travail, afin de suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce que cette foule peut recevoir de lui? Parce qu'il était déjà avec eux dans la ville. Maintenant qu'il est dans un endroit, il est dans un endroit isolé, qu'est-ce qu'il peut encore leur donner? Cette foule qui est venue à pied, qu'est-ce qu'ils sont venus recevoir auprès de Jésus-Christ? Si la technique peut nous aider, il peut nous mettre Marc 10, 29 à 30. Marc 10, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans les siècles ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc, bien aimé, lorsque nous choisissons de quitter nos familles, nos parents, parce qu'il y a des gens qui ont quitté leur famille, il y a des gens qui ont quitté leurs frères, des familles insupportables. Vous êtes dit, comme cette famille est insupportable, je vais me faire une famille dans la maison de Dieu. Je vais me faire des frères dans la maison de Dieu. Je vais me faire des parents dans la maison de Dieu. Je vais chercher des terres dans la maison de Dieu. Lorsque vous avez quitté toutes ces choses, vous avez quitté tout ce qu'il y a, tout ce que le monde pouvait vous donner, vous avez quitté la terre, vous avez quitté le monde pour aller suivre Jésus-Christ, pour le bien de l'Évangile, vous recevrez au centuple dans ce siècle ici, mais aussi vous recevrez la vie éternelle dans les siècles à venir. Jésus-Christ prend soin du siècle présent, mais aussi il prend soin du siècle à venir. Voilà le meilleur pour lui. Les hommes sur la terre peuvent seulement nous prendre en charge seulement ici sur la terre. Et peut-être s'il est ministre, il va juste vous prendre, va prendre soin de vous pendant qu'il est dans son mandat. Mais après quelque temps, quand on va changer une autre personne, il n'aura plus rien à vous donner. Mais Jésus-Christ vient nous rassurer. Et pour les siècles présents, et pour les siècles à venir, il veut nous prendre en charge. La foule avait reçu les premiers soins de Jésus-Christ ce jour-là. Les malades qui étaient venus, ils étaient guéris. Et ensuite, Jésus a également nourri spirituellement. Ils ont reçu des enseignements dont ils avaient besoin pour nourrir leurs âmes. Et comme la nuit est en train de s'approcher et ils étaient dans un endroit qui était désert, les disciples se sont approchés devant Jésus-Christ avec une proposition. Maître, ce lieu est désert et l'air est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour acheter des vivres. En d'autres termes, les disciples voulaient dire ceci. Maître, tu as déjà donné de quoi nourrir les âmes spirituelles de ces hommes et les femmes. Mais en ce qui concerne leur corps physique, tu n'as pas de moyens. Alors, mieux vaut de renvoyer cette foule afin qu'ils aillent chercher de quoi manger ailleurs. Les disciples avaient oublié qu'en Jésus-Christ se trouve une provision de nourriture, de corps, de l'âme et de l'esprit. Ainsi, il va leur donner la réponse contradictoire. Vous m'avez donné cette proposition ici, ma réponse sera contradictoire. C'est pour vous contredire. Jésus ne sera pas du même avis avec eux. Il y a des moments où nous irons avec des propositions auprès de Jésus-Christ, croyant qu'elles sont des meilleures. Jésus-Christ nous dira non. Il nous dira non. Il leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous vous dites qu'ils partent d'ici? Non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. La façon de voir de Jésus était totalement différente de celle de ses disciples. Les disciples, quant à eux, ils sont réalistes. Ils sont réalistes. Ils sont rationnels. Ils sont purement mathématiques. Ils sont purement économiques. Ce sont des économistes. Ce sont des mathématiciens. Ce sont des comptables. Ce sont des ingénieurs. Ce sont ces scientifiques qui ont la raison en eux. Ils se sont appuyés sur des données purement visibles, sur des faits concrets. Les disciples savent qu'il n'y a pas de boulangerie dans la région. Les disciples, ou sinon dans les voisinages, les disciples savent qu'il n'y a pas de supermarché dans les voisinages. Les disciples savent qu'il n'y a pas de restaurant ici. Donc, même si on peut avoir de l'argent, ce n'est pas, nous n'aurons pas une, même s'il y aura des boulangeries, il n'y aura pas une boulangerie capable de produire des pains pour nourrir cette foule. Il n'y en aura pas. Et ils sont vraiment rationnels. Parce que les disciples, ils ne voyaient pas seulement 5000 hommes, mais ils étaient en train de voir aussi des femmes et des enfants. Or, vous savez, dans des grandes assemblées comme celle-ci, il y a plus de femmes que des hommes. Il y a plus de femmes que des hommes. Bien-aimés, Jésus-Christ est un kit complet. Et sa présence seule, peut tout nous donner, peut résoudre à nos besoins. Seule sa présence. Pour ton problème, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Car devant toi se trouve la solution pour ton problème. Et il est là. Je voulais juste te dire aux disciples que ce que cette foule ira chercher ailleurs, elles l'ont déjà. Vous les renvoyez ailleurs, mais ce qu'ils iront chercher là-bas, ça se trouve déjà devant eux. Jésus-Christ est déjà là. Les enfants d'Israël qui partaient de la terre promise d'Israël, d'Égypte à la terre promise, se sont trouvés devant un blocage. Pour eux, quand ils pouvaient regarder la mer rouge et ils pouvaient regarder derrière l'armée de l'Égypte, et qui était même l'armée la plus puissante, en ce moment-là, ils pouvaient se dire qu'ils étaient totalement bloqués. Il n'y avait aucune ici de solution, il n'y avait aucune ici de sortie. Mais Jésus-Christ leur dit, mais le Seigneur leur dit, il y a un chemin par là. Ils pouvaient se poser la question, mais où se trouve le chemin? Nous, quand nous regardons, nous ne voyons rien, nous ne voyons que la mer rouge. Mais le Seigneur dit, il y a une route par là. Je vais dire à une personne qui se sent bloquée qu'il y a un chemin par là où il se sent bloqué. Ils étaient sans solution, mais Dieu dit, il y a un chemin par là. Bien-aimé, là où tu es bloqué, il y a une ici des solutions. Et Jésus-Christ va loin, disant aux disciples, donnez-les vous-même à manger. Donnez-les vous-même à manger. Devant cette demande de Jésus, les disciples avaient deux solutions. Soit ils vont regarder dans leur caisse pour qu'ils sachent que nous avons combien dans la caisse pour aller acheter de quoi à manger. Et dans l'une des évangiles que j'ai lus, on dit qu'ils pouvaient avoir 200 deniers dans la caisse là. Donc, soit compter sur ce qu'ils avaient dans la caisse ou compter sur la provision qu'ils avaient pour manger, pour se nourrir eux-mêmes. Mais là aussi, il n'y avait rien, sinon cinq pains et deux poissons. Et qu'est-ce que vaut cinq pains et deux poissons devant une foule de plus de 20 000 personnes? Ça ne vaut absolument rien. La demande de Jésus-Christ aux disciples de nourrir la foule illustre les leçons sur la responsabilité personnelle et la dépendance envers Jésus-Christ. Il voulait simplement leur dire, comme je suis ici, vous pouvez donner ces gens à manger. Comme moi-même je suis présent ici, il y a de la provision pour nourrir toutes ces personnes. Donc il voulait simplement leur dire que chaque fois quand vous dépendrez de moi, vous aurez des solutions dont vous aurez besoin. Jésus voulait juste que les disciples sachent qu'ils ont un rôle à jouer dans les services de Dieu et dans la sollicitation envers les autres. Pour cela, pour qu'ils puissent très bien jouer leur rôle, ils devaient travailler. Que Jésus-Christ devait travailler au-dedans d'eux, travailler leur foi, travailler tout en eux. Et nous également, nous avons besoin que le Seigneur travaille sur nous. Et pour que le destin de Dieu s'accomplisse. Dieu nous équipe et Dieu nous utilise comme instrument de sa grâce. Quand Dieu nous dit des choses, que nous puissions faire des choses, sachons-le bien que nous sommes de simples instruments. Mais la provision viendra de lui-même. Nous serons utilisés juste comme des instruments. Soyons juste des instruments disponibles. Pour cela, il faut travailler. Et Jésus-Christ nous montre que l'amour et la compassion doivent se traduire par des actions et des actes tangibles. Nous allons directement à notre deuxième point, l'intervention de Jésus-Christ. Après évaluation, les disciples se sont rendus compte de la grandeur de la situation qui était au-devant d'eux. Ils ont compris que la situation était immense. Nourrir cette foule n'était pas facile. Et ils se sont dit prêts à avouer devant Jésus-Christ qu'ils n'avaient rien à faire et ils ont juste présenté ce qu'ils avaient entre leurs mains. Seigneur, nous n'avons rien, nous n'avons pas de solution, mais regarde les cinq pains que nous avons, c'est ça. Regarde les deux poissons que nous avons, c'est ça. Ils sont allés avouer. Ils ont été sincères devant Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur a besoin de notre sincérité. Alors, pour le mieux à faire, c'est se tourner vers soi-même. Donc, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des problèmes, quand nous sommes en face de telles situations, il est lié d'abord que nous puissions nous tourner vers nous-mêmes. Nous regarder notre insuffisance. Et les disciples se sont regardés face à face, ils ont compris qu'ils étaient dans une insuffisance. Il n'y avait rien en eux. Ils se sont tournés vers eux, il n'y avait rien en eux. Et ils ont constaté leur insuffisance. Et ensuite, se tourner vers Jésus-Christ en lui faisant confiance. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, regardons d'abord, regardons-nous nous-mêmes, quand nous trouvons qu'à nous, personnellement, il n'y a aucune solution, tournons-nous vers Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais qu'il y ait un homme qui se tourne vers Jésus-Christ pour sa situation. Dans le deuxième cas que nous avons dit ici, nous devons être disposés à écouter ce qu'il nous dit et à obéir, car il veut souvent opérer avec nous. Dans la façon de faire de Jésus, nous avons tiré quelques leçons. Dans sa façon de faire de ce jour-là, nous avons juste tiré quelques leçons. La première leçon, c'est quoi? Que Dieu a mis dans nos mains, dans la main de chacun de nous, 2 poissons et 5 pains. Ce sont des faibles capacités que Dieu a mis, que Dieu nous a données. Ceci peut symboliser le faible commencement. Ça commence toujours faible dans la vie de chacun de nous pour devenir grand. Nous commençons toujours bas pour atteindre la hauteur. Les gens veulent toujours commencer grand, malheureusement. Même quand ils vont aller chercher du travail, ils cherchent, je cherche un bon travail. Ils ne peuvent pas chercher un travail. Tu viens à peine de finir tes études. Tu cherches du travail, directement tu vas au bon travail. Cherche le travail et le meilleur viendra. Les gens veulent toujours commencer grand, même pour venir au monde. Et pourtant, nous avons commencé par la naissance. Et nous avons grandi jusqu'à ce que nous sommes arrivés, là où nous sommes arrivés. Notre Dieu est celui qui fait grandir et qui fait croître, mais à condition qu'il trouve sa part à nous. L'épée que nous pouvons avoir lorsque nous les confions à Jésus-Christ, il les fait grandir. Tu n'as que paix lorsque tu les conduis, lorsque tu l'amènes, lorsque tu la portes à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va les faire grandir, il va les faire gonfler, il va les faire croître. Très souvent, les gens veulent comprendre ce que Jésus veut faire. Non. Ne cherchons pas seulement ce que Jésus veut faire. Nous faisons exactement ce qu'il nous dit de faire. Amen. Tout ce que tu as, de plus petit que ce soit, tu peux l'apporter auprès de Jésus-Christ. 5 pains, 2 poissons pourraient être insuffisants devant la grande foule de 5000 hommes, mais Jésus-Christ dit, apportez-les-moi. Ce que tu as là de faible entre tes mains, ton petit travail là, je ne sais quoi, dans ton travail, tu as juste, depuis que tu as commencé, tu as juste un petit niveau, tout ça, ton petit diplôme, tout ce que tu as comme problème, apporte-les à Jésus-Christ ce matin. Tu penses que c'est petit, mais apporte-les à Jésus-Christ. Tout ce que tu peux avoir. Tout ce qui te manque se trouve dans ce qui se trouve entre tes mains. Tout ce qui te manque se trouve dans ce qui se trouve entre tes mains. Moi, Moussala, wana ozana ngowana, yangonde kobota ya minene. Le petit commerce, c'est là que tu fais, c'est cela qui va produire des grands magasins. Lorsque Jésus dit apporte-les-moi, il sait ce qu'il va faire. Exécute juste ce qu'il te demande de faire. Exécute juste. Pouvons juste exécuter. Le Seigneur, dans Ézéchiel 37, le Seigneur avait conduit les prophètes dans une vallée où il n'y avait rien. Il regardait dans la vallée, il n'y a que des ossements desséchés. Un silence absolu, un calme absolu. Fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois ici? Au monsieur, je vois que les ossements desséchés, il n'y a pas la vie ici, il y a un silence absolu. Oui, mais prophétise. Parle! Bien-aimé, quand le Seigneur te dit parle, alors parle. Et ce matin, nous parlerons devant ce Dieu. Et le prophète, quand il a parlé, il a senti un mouvement. Il a senti le rassemblement des ossements. Il a senti les corps venir. Il a senti que là où il y avait un silence, il y a du bruit, il y a des mouvements. Ce matin, le Seigneur est venu apporter un mouvement dans ta vie. Ce matin, le Seigneur est venu apporter du bruit dans ta vie. Ce matin, le Seigneur est venu apporter du souffle dans ta vie. Ce qui t'a longtemps manqué, le Seigneur est venu te le donner. Ce qui te manque, oui, il y avait eu un silence pendant un temps, mais le Seigneur est venu résorber cette crise. Ce matin, il est capable de le faire. Dieu voulait que nous puissions mettre ce que nous avons à la disposition des autres. Quand nous mettons ce que nous avons à la disposition des autres, le Seigneur viendra nous secourir. Ensuite, il fit asseoir la foule. Dieu veut nourrir une foule assise, pas une foule debout. C'est à la demande de Jésus-Christ que la foule a été mise assise. La position assise est une position de stabilité. C'est une position de repos. C'est une position de disponibilité. Ceci montre l'importance de la préparation et de l'ordre dans la réception des dons. La foule en position assise est une foule attentive. C'est une foule prête à recevoir ce que Dieu a prêté pour eux. Et ce matin, je sais qu'il y a une foule assise ce matin. Il y a une foule assise prête à recevoir les dons de Dieu. Quand on s'assoit devant quelqu'un, c'est qu'on l'accepte, on l'adopte. Beaucoup veulent être bénis par Dieu, alors que ils ne veulent pas s'asseoir. Ils sont là toujours errants. Ils sont là toujours en l'air. Ils sont là toujours pied dedans, pied dehors. Ils sont là toujours sans position. On ne sait pas te maîtriser. Qu'est-ce que tu es réellement? Est-ce que tu es membre de l'église ou tu ne l'es pas? On ne sait pas te maîtriser. Pourtant, des gens pareils ont besoin de la bénédiction de Dieu. Quand nous avons un pas dedans, un pas dehors, un pas dedans à l'église et un pas dehors dans le monde. On vient à l'église quand on veut, incapable de créer du temps pour ton Dieu. Mais tu as du temps pour ton travail. C'est quand tu as des problèmes, c'est quand tu as des difficultés, c'est quand ton travail est menacé, c'est en ce moment-là que tu viens à l'église. Priez pour moi. Derrière chaque miracle, Dieu exige une position de stabilité, une position de disponibilité. Les disciples qui distribuaient les pains n'ont donné qu'à ceux qui étaient assis. Soyons assis dans la parole, dans la connaissance, dans la vie des prières, dans les enseignements de Christ, ayant des racines inébranlables. Car ce qui a fait la force de l'Église primitive, c'est par le fait qu'ils étaient assis. Et la Bible dit, ils opéraient des miracles. Les miracles sont encore possibles au milieu de nous. Mais nous devons être assis. Rendons grâce, rendons toujours grâce à Dieu en toutes circonstances. Pour le minimum que Dieu nous donne, nous devons rendre grâce. Le plus souvent, nous attendons d'abord que le Seigneur puisse nous exaucer pour que nous puissions rendre grâce. Et même quand on lit les actions de grâce ici, c'est déjà pour des choses que le Seigneur a déjà fait. Mais ici, Jésus-Christ vient nous donner un autre enseignement. Avant que le miracle puisse s'opérer, avant l'exaucement, il a d'abord rendu grâce. Il a d'abord rendu grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Apprenons à rendre grâce. C'est vrai, tu es déjà marié. Tu n'as pas des enfants. Rends d'abord grâce pour le mariage que le Seigneur t'a donné. Tu as déjà un travail. Tu travailles, mais tu n'as pas de promotion. Rends d'abord grâce pour le travail que Dieu t'a donné. Tu Tu es dans le chômage, tu as toqué plus, beaucoup de portes, il n'y a rien. Rends d'abord grâce rien que pour la vie que le Seigneur t'a donnée. Tu es malade, rends d'abord grâce que le Seigneur t'a donné de voir la journée. Parce que le reste viendra après. Soyons capables de rendre grâce. Sois prêt à apprécier ce que Dieu t'a déjà donné. Il y a des gens qui ne veulent pas déjà, d'abord accepter ce que le Seigneur a déjà donné parce qu'ils sont en train de viser loin. Non, nous devons avoir des visions lointaines, mais aussi nous devons apprécier ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Et quand je regarde autour de nous, le Seigneur a déjà fait de grandes choses. Soyons prêts à l'apprécier. Soyons prêts à l'apprécier. Ce que tu cherches, il te l'a déjà donné. Il te l'a déjà offert à la croix. Dans Jean 11, 41, devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. » Lazare n'était pas encore ressuscité. Mais ici, nous sommes en train de voir Jésus-Christ rendre déjà grâce. Tu peux rendre grâce pour ce que le Seigneur t'a accompli. Tu peux rendre grâce pour la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux rendre grâce de ce que le Seigneur t'a fait quitter le monde pour devenir enfant de Dieu. C'est donc un acte de foi que seuls hommes et femmes de foi peuvent poser. Rendre d'abord grâce. Parce que vous savez qu'au finish, Dieu fera. Je suis venu avec un problème. Je suis venu le confier au maître du Seigneur. Je le rends déjà grâce parce que je sais qu'il le fera. Akosa la yango. Il le fera. Il le fera. Après cela, Jésus rompit les pains et il les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Il y a ici la part de l'homme, la part de Jésus-Christ et la part des disciples. Si Jésus-Christ avait fait sa part, la distribution, ce n'est pas son problème. Bien-aimé, il y a des choses que nous ferons, que Dieu ne fera pas. Alors, nous qui croisons les bras à la longueur des jours, Nzambe akosala, même pour aller chercher du travail, Nzambe akosala, non! Il a déjà fait sa part, toi aussi fais ta part. Jésus-Christ voudrait que nous puissions distribuer aux autres ce que nous avons. Les autres d'abord, nous-mêmes après. Nous voyons que tous mangèrent à leur faim, au point où il est resté 12 paniers. 12 paniers. 12 paniers sont restés et il y avait 12 apôtres. Donc, s'ils avaient des inquiétudes, 5 pains n'abiso et zokende. Nos deux poissons ezokende. On est en train de voir ces deux poissons s'échapper de nos mains à cause de cet homme. Parce que s'il n'avait pas dit ça, nous on allait se régaler avec nos 5 pains. Mais maintenant qu'on va leur donner, qu'est-ce qui va rester? Mais après les miracles, après la multiplication, nous voyons ici 12 paniers restants. Et chacun pourra s'en procurer un panier pour lui seul. Donc nous comprenons que tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour notre bien. Les grands bénéficiaires ici, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas la foule, mais les disciples. Soyons des disciples engagés et nous trouverons notre part. Soyons des disciples engagés. En conclusion, nous disons que le miracle de la multiplication est encore possible aujourd'hui. Mais cela passera par la mise à la disposition de ce que nous avons entre nos mains. Premièrement, d'abord, c'est les autres et après nous-mêmes. Et Jésus-Christ prendra soin de nous en nous donnant ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Seigneur, nous te bénissons.
Bien-aimé, on va s'élever dans la présence de notre Dieu. On va mijoter quelque chose. Je ne sais pas à quel niveau tu as été touché par cette parole. Mais le Seigneur est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur est capable d'intervenir dans ta vie. Le Seigneur est tout ce qu'il te faut. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Tu es venu avec un tas de problèmes ce matin. Sache que le Seigneur est là ce matin. Alléluia. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu es capable de faire, notre Dieu. Oh oui, Seigneur notre Dieu, tu es celui qui nous donne, oh Dieu Seigneur notre Dieu, de donner à l'avoir aux autres, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous voulons compter sur toi, Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta parole.